Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Jusqu'au fond de la salle ? Bon, parfait. Alors, pour introduire ce message, j'aimerais vous présenter un objet. Alors, par contre, oui, bah voilà. Fallait pas passer, mais c'est pas grave. Parce que je vais vous donner un indice. Non, mais je vais vous présenter un objet. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est ?
Une spatule ?
Ah, c'est pas une spatule.
Une raclette ?
C'est pas une raclette.
Pour le pain ? Pour le pain ?
C'est pas pour le pain.
Un morceau de disque ?
Non plus.
Attends, bah, c'est bien comme ça.
C'est pas un simple bout de plastique non plus. Non ? Alors, tu peux passer à la diapo ? Il y a une indice dans la photo ?
C'est un moule.
C'est pas un moule.
Ah, non, c'est
pour racler la pâte du pain.
Non, non, c'est ni une douille, ni une poche. C'est une corne.
Oh.
On appelle ça une corne, tout simplement. Donc, une corne, ça sert à plein de choses. Et en fait, je cherchais un outil qui était représentatif de mon métier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent encore pas trop, je suis pâtissier. Je cherchais un outil qui était représentatif. Et en fait, je me suis dit, c'est ça. Ça, on l'utilise des dizaines et des dizaines de fois par jour. On a des tiroirs pleins, on en a, je sais pas, 20, 30, et ils sont toujours vides. À 8h du matin, il n'y a déjà plus de rien dans les tiroirs. Donc, en réalité, ça sert à plein de choses. Ça sert à corner, justement. Donc, ramasser une pâte, une crème, ce qu'on veut. Ça sert à gratter nos plaques. Ça sert vraiment à tout enlever dans les saladiers, etc. Il y a énormément d'utilité. Ça sert à remplir les poches à douille. Ça sert tout le temps. Et ça sert aussi à mesurer. Il y a une petite règle sur le côté. Ça sert à mesurer la longueur des éclairs. Oui, c'est précis. On fait pas n'importe quoi. Il y a une longueur. Il y a une largeur, il y a une longueur.
Vous devriez bien les faire un peu plus grands.
Trop grand, ça va pas. Après, on gagne pas assez d'argent. Voilà. Alors, si je vous parle de ça... Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que Geoffrey nous a parlé il y a 15 jours, non pas de pâtisserie, mais il nous a évoqué dans sa prédication que nous étions des outils dans les mains du Seigneur. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant. Et c'était intéressant de creuser un peu le sujet et d'aller un peu plus loin et de voir un peu de plus près notre relation avec le Seigneur. Et ce matin, je vous propose donc de parler d'outils, mais pas n'importe lesquels. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, pardon, au chapitre 6 et au verset 12 à 14. Parfait. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors, je vous propose d'aborder ce texte en trois points. Et oui, nous sommes des outils. Enfin, dans trois points. Des outils pour faire le mal, des outils pour faire le bien, et des outils graciés et sauvés. C'est un plan relativement... J'ai trouvé ça plutôt simple, mais je trouvais ça vraiment intéressant, et finalement, et ben c'est pas si simple que ça. Alors, il y a une chose très importante que Paul nous indique dans ce premier verset, c'est que... et c'est même un des messages, je dirais... important de cette lettre, de cette épître aux Romains, c'est que malgré notre nature de péché, de pécheur, pardon, qui nous pousse à faire le mal, à faire des choses que nous regrettons, des choses que parfois nous ne voudrions même pas faire, malgré cela, il nous invite à ne pas nous laisser submerger, à ne pas nous laisser dominer, écraser, on pourrait presque dire manipulés par notre propre nature. Donc, par Satan, qui nous pousse continuellement à mal agir. Et c'est pour cette raison que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité pour nous offrir son pardon et nous libérer de nos péchés. Tout cela, on accepte de le mettre en pratique lors de notre baptême. Nous acceptons sa mort à la croix pour nous, pour nos péchés, et nous acceptons de le suivre et de le servir jour après jour. Pourtant, bien que libérés, nous avons sans cesse à combattre notre propre nature. Et Paul ne le nie pas, c'est une conséquence de la chute. Mais il exhorte les chrétiens de Rome, qu'il s'adresse dans cette lettre, à lutter, à ne pas se soumettre au péché de peur qu'il n'envahisse nos cœurs comme des mauvaises herbes. C'est la saison du jardin pour certains, comme les mauvaises herbes qui étouffent les plantes et les fleurs et empêchent de faire pousser ce qu'on veut en tout cas. Et c'est loin d'être quelque chose de simple, de quelque chose d'intuitif. Au contraire, ça va à l'encontre de notre nature, justement. Et c'est pour cela que Paul insiste autant sur notre péché, notre nature de pécheur. Néanmoins, il nous livre au travers de ces versets une clé primordiale pour notre lutte avec le péché. Ne mettez pas vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Alors, le mot instrument de l'injustice, ou un peu plus loin de la justice, il va falloir que j'évite de faire le lapsus, c'est un terme qui désigne à la fois un outil et une arme. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Alors, un outil n'a pas de capacité en soi. Il est nécessairement le prolongement de celui qui l'utilise. Et pensez à ma corne, elle est le prolongement de mon bras. Et de la même manière, on peut considérer que nous sommes des outils dans les mains du Seigneur, tout comme nous pouvons l'être entre les mains de Satan. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter une histoire. Alors, je pense que tu peux passer. Je vais raconter l'histoire d'Alfred Nobel. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, il est assez connu. Mais... Donc, Alfred Nobel, il est né en 1833 à Stockholm. Et il est issu d'une riche famille, on pourrait dire, d'industriels suédois spécialisés dans la chimie des explosifs. C'est donc tout naturellement qu'il fait des études de
chimie.
Bravo. Donc il fait des études de chimie et il découvre lors d'un séjour chez un chimiste parisien un explosif découvert juste avant, quelques années avant, la nitroglycérine. Le problème, c'est que la nitroglycérine, elle est très instable. Elle réagit au moindre choc. On peut pratiquement rien en faire parce que Elle est tellement instable, on ne peut ni la transporter, ni la travailler, ni elle explose. D'ailleurs, il y a eu plusieurs accidents, des laboratoires qui ont explosé, etc. Et il va donc, pendant de nombreuses années, plus d'une dizaine, travailler à contrôler et maîtriser le pouvoir explosif de cette matière. Et ainsi, il met au point la dynamite et le détonateur. Et grâce à ses brevets et à la production industriel de dynamite, il s'enrichit considérablement. Il accumule une richesse vraiment, vraiment exceptionnelle parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'est un outil, la dynamite est un outil indispensable dans tous les grands chantiers de l'époque. La fin du 19e siècle est vraiment l'époque de tous les, le temps de tous les grands chantiers. Des constructions de routes, percement de tunnels, de canaux ou encore l'exploitation des carrières. Mais en 1888, un journaliste écrit par erreur une nécrologie sur Alfred Nobel. En fait, on croyait qu'il était mort. Sauf qu'il n'était pas mort, c'était son frère. Mais on a cru qu'il était mort. Donc du coup, bah, on a prévu un avis de décès, on pourrait dire. Et dans cette rubrique, il indique, enfin, il qualifie Alfred Nobel de marchand de la mort. Et oui, parce que son invention, elle a été aussi utilisée, vous vous en doutez bien, dans l'armement. Ça servait à faire des armes, des bombes, etc. Et affecté par cet événement, et probablement soucieux aussi de se racheter, il lègue à sa mort toute sa fortune dans la création d'un prix qui porte son nom et qui récompense encore aujourd'hui les bienfaiteurs de l'humanité dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine et de la littérature, sans oublier le plus prestigieux de tous les prix Nobel, le prix Nobel de la paix, exactement. Alors, cette histoire, elle nous montre quoi ? Elle nous montre tout simplement qu'on peut utiliser un outil à bon escient, mais aussi à mauvais escient. J'ai pas réussi à trouver et à savoir si Alfred Nobel avait dans la conscience de l'utiliser pour faire une arme. En tout cas, cet outil a été utilisé. A été utilisé dans l'armement, mais je pense pas que c'était le but principal de la création de cet outil. Alors, de même, on peut utiliser nos membres, comme nous le rappelle ce texte, comme des outils au service du Seigneur, mais aussi au service de Satan, pardon, on l'a vu. Et Paul nous exhorte à ne justement pas être des outils au service de Satan, mais bien des outils au service du Seigneur. Donc on va avoir des outils pour faire le bien. Alors pour cela, Paul nous demande de nous livrer nous-mêmes à Dieu, au Seigneur. Le Seigneur attend de notre part une impulsion. Une volonté, un cœur bien disposé, comme nous l'a rappelé Geoffrey dernièrement. Et c'est avec ce cœur bien disposé que nous pouvons nous laisser guider par le Seigneur. Et en quelque sorte, si je peux me permettre l'expression, changer notre fusil d'épaule. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des instruments de la justice. Et utiliser ce que nous sommes comme des outils au service du Seigneur et pour ceux également qui nous entourent. Et non pas des instruments de l'injustice. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit à propos de ma corde. Je vais y revenir tout au long du message, hein, je vous préviens. C'est que c'est également un outil publicitaire. Et oui, il y a la marque du fournisseur dessus. Parce qu'il est offert par nos fournisseurs. Alors on peut l'acheter, mais normalement on ne l'achète pas. On nous le donne. Enfin, façon de parler. Hein. Il est offert donc par nos fournisseurs, histoire qu'on pense à eux et qu'on ne les oublie pas. On n'oublie pas d'acheter chez eux. Et ainsi, tout comme cet outil porte le nom du fournisseur, ben nous devons également être... Nous devons porter fièrement, pardon, le nom de Jésus-Christ, car c'est Dieu le Père qui nous a créés et que par son Fils, Jésus, nous sommes sauvés. Je vais passer à la diapositive suivante. Il n'y a pas de souci. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Nous dit Ésaïe 64, verset 7. Et nous sommes des vases d'argile, pour reprendre encore une expression du Nouveau Testament cette fois, créés par notre Père céleste et destinés à recevoir un précieux trésor, celui de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, petite anecdote, l'église où j'ai grandi s'appelle la Maison du Potier. C'est le nom de l'église. Et c'est aussi une expression qu'on retrouve dans la Bible. Et j'aime bien cette image de l'église qui est la maison, l'atelier, on pourrait dire, du potier, du Seigneur. Car le Seigneur travaille nos cœurs de bien des manières différentes, c'est vrai. Mais l'église est un endroit privilégié que le Seigneur, où le Seigneur, pardon, travaille les cœurs comme un potier travaille l'argile. Et Dieu utilise chacun d'entre nous dans des rôles différents, comme des outils différents les uns des autres, avec des utilités différentes, mais tellement complémentaires. Alors, prenons encore une fois l'exemple de ma corde. Ma corde, je l'utilise seule, mais je l'utilise aussi avec d'autres outils. Si je veux pocher ou coucher, c'est comme ça qu'on dit, la pâte à choux ou une crème, eh bien je prends une poche, une douille et une corde. Et je les utilise les trois en même temps. Et les trois sont complémentaires. S'il manque ma douille, ça ne va pas aller. S'il manque ma poche, ça ne va pas aller non plus. Et s'il manque ma corde, je ne vais pas y aller avec mes mains non plus. Donc, les trois sont complémentaires. Et j'utilise dans mon métier, j'utilise probablement des centaines d'outils, véritablement. On a des tiroirs remplis. Des trucs qu'on sert une fois dans l'année, mais on s'en sert. Je prends une d'une douille, une douille spécifique qu'on utilise juste pour faire les feuilles de lierre sur les bûches crème au beurre. Très spécifique, qu'on utilise une fois dans l'année. Mais pourtant, elle est là et on en a besoin. Et voilà. Donc, dans le corps de Christ, dans l'Église, nous aussi, mais aussi en dehors, pardon, j'arrive plus à me relire. Dans nos relations, dans notre quotidien, nous sommes des outils travaillant ensemble ou individuellement en fonction des circonstances, mais toujours en étroite relation, en symbiose avec le Seigneur, notre Créateur. Et Éphésiens 4, versets 11 et 12 nous dit... Encore un. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les sujets aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. En effet, tout comme chaque outil a un rôle, nous avons chacun un rôle à jouer et aucun n'est plus important ou supérieur à un autre. Chaque membre du corps de Christ est important, peu importe son rôle, et nous avons un peu parfois tendance à l'oublier. Nous nous trouvons des fois des excuses, des prétextes, nous ne nous sentons pas capables, nous nous comparons aussi aux autres, ou bien encore, nous nous sentons inutiles. Mais prenons encore une fois l'exemple de ma corne. En fait, c'est un simple bout de plastique. Et pourtant, c'est l'outil que j'utilise le plus. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple, plus basique comme outil de travail. Et pourtant, c'est probablement l'outil que j'utilise le plus. Ne serait-ce pas l'illustration de notre rôle, de nos rôles en tant que croyants ? Des outils pour faire le bien, pour la justice. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Tu peux passer deux dés. Encore un. J'ai mis un peu trop de diapos. Mais tout cela serait profondément incomplet sans le verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Car même avec toute la bonne volonté du monde, sans la grâce, nous n'avons pas les capacités d'être des instruments de la justice, des outils pour faire le bien. Bien sûr, nous avons des capacités, des dons, des compétences, mais encore une fois, c'est Dieu qui nous les donne. Il nous a créés dans notre entièreté. Il a créé l'homme à la manière d'un potier sculptant son œuvre. Mais malgré ce rôle de créateur, il nous laisse libres, libres de le servir ou non, libres d'être des outils pour lui ou non. Mais pour ceux qui font le choix de le suivre, d'être des outils au service du Seigneur, il nous assure la victoire contre Satan. Tu peux avancer d'un verset, d'un passage, d'une diapo, pardon. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main, nous dit Jean 10. Bien que pécheurs par notre nature, on l'a vu au début, Dieu nous offre le pardon et nous assure la victoire sur la mort, ainsi que la vie éternelle auprès de lui. Et sur cette terre, il nous donne les capacités de faire le bien plutôt que le mal, d'utiliser nos compétences comme pour son service plutôt que pour servir Satan. Il ne nous condamne pas comme le fait la loi, mais nous offre sa grâce, le pardon de nos péchés et nous offre la possibilité d'une vraie relation avec lui. La grâce de Dieu nous ouvre la voie vers lui malgré notre nature qui nous incite à faire le mal et sa grâce ne nous condamne pas à l'inverse de la loi. Sa grâce nous ouvre la voie du pardon lorsque nous péchons, alors nous avons la liberté de revenir à lui malgré cette culpabilité qui peut parfois nous empêcher d'agir. Être des outils au service du Seigneur ne signifie pas être des marionnettes qui agiraient au bon gré de celui qui les a façonnés. Au contraire, il souhaite notre consentement et une impulsion de notre part, car c'est un choix. Un choix que de nous tourner vers ce potier bienveillant qu'est notre Seigneur, en qui nous pouvons être véritablement libres et utiles dans ce monde. Alors, faisons ce choix d'être des outils utiles pour Dieu, non pas par redevabilité, par obligation, par tradition, par devoir, par pression, mais par amour envers celui qui nous a créés. Et pour conclure, ne nous laissons pas dominer par notre propre nature qui nous pousse à faire le mal. Par nature, l'homme trouvera toujours le moyen de détourner ce qui est bon. Rappelez-vous l'histoire d'Alfred Nobel. Mais au contraire, soyons des outils au service de notre Seigneur, des outils utiles pour faire le bien. Chaque outil qui forme le corps de Christ sont utiles. Pensez à cette simple corne, ce simple bout de plastique pourtant tellement utile dans mon métier. Nous sommes en quelque sorte le prolongement de la main de Dieu, ses ambassadeurs sur cette terre, toutefois sans être des pantins, mais au contraire dotés de capacités, de dons, de compétences. Soyons en toute liberté des instruments de la justice et non de l'injustice. En tant que chrétiens, faisons ce choix, soyons des témoins et utilisons les membres comme des outils dans l'Église et au dehors, par notre comportement, notre témoignage, nos valeurs et nos actions. Voilà ce que j'avais à vous partager ce matin, au travers de ce passage de la Bible.